Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission de la web radio du Collège François Rabelais. Après avoir travaillé l'an dernier sur les rapports entre la justice et les médias, les élèves de la classe média de 4e 5 vous proposent aujourd'hui de parler de développement durable.
En effet, après avoir visionné en début d'année le documentaire Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, ils sont partis à la rencontre des acteurs du développement durable en Anjou. Nous avons avec nous sur le plateau Zainaba et Théo, deux élèves de la classe qui vont nous en dire plus. Mais au fait, de quoi parle-t-on lorsqu'il est question du développement durable ?
De tout, d'économie, d'environnement, mais aussi de société, car le développement durable, c'est créer une société économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.
La tâche s'annonce difficile, mais pas impossible. Nous allons essayer de vous le prouver à travers cette émission, pour laquelle les 4e 5 ont interviewé Morgane Bourrigaud, de la Maison du Projet de Belbey, Jürgen Barthélémer, l'un des fondateurs de la Muse, Nicolas Hasbrook, maraîcher bio de l'AMAP Les Voisins de Panier, mais aussi Jonathan Lafont, directeur du magasin Natureo, et Emmanuel Charil, directeur général des services du CML. Chacun d'entre eux, dans le cadre de son métier ou de son engagement, s'implique au quotidien pour faire vivre le développement durable en Anjou.
Et pour commencer, nous allons donner la parole à Morgane Bourrigaud qui va nous expliquer sa mission au sein de la Maison du Projet de Belbey et nous parler de la rénovation verte du quartier.
Alors, quels sont ses objectifs de la Maison du Projet ? C'est d'informer en premier lieu les habitants, mais ça peut être aussi les acteurs du quartier comme les enseignants, les commerçants, les professionnels qui travaillent sur le quartier, sur le nouveau projet de renouvellement urbain de Belbey.
Quels sont les changements qui vont faciliter le développement des modes de transport durable ?
Alors, l'arrivée du tramway, ça je pense que vous êtes à peu près informés. Donc, c'est une deuxième ligne, mais en réalité, c'est deux lignes. C'est-à-dire qu'on va avoir actuellement, on a le tramway ligne A. Demain, on va avoir le tramway ligne B et C, puisque sur une même ligne en lien avec la ligne A, on va pouvoir faire des cheminements différents. Mais le tramway, ça ne suffit pas à développer d'autres formes de mobilité. On va dire que c'est le grand projet qui va structurer le développement d'autres façons de se déplacer. Et puis quand on parle de développement des modes de transport durable, eh bien on a envie de parler du vélo forcément et du développement de toutes les pistes cyclables. Alors aujourd'hui, il y en a un certain nombre à Belbey, mais on voit comment certaines ne sont pas maillées, c'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le quartier où on se sent à peu près en sécurité pour se déplacer et d'autres où on sort d'une piste cyclable pour arriver dans une rue. Donc tant que faire se peut, on va essayer de développer ce qu'on appelle un plan vélo à l'échelle de la ville qui permettra entre autres sur Belbey d'avoir le plus possible ce maillage, hein, c'est-à-dire ce lien entre différentes rues, différentes artères, en déplacement doux.
Pouvez-vous nous parler des aménagements liés à la rénovation urbaine qui permettraient de réduire la consommation d'énergie dans les quartiers ?
Alors, le gros projet dont on a beaucoup entendu parler sur le quartier et qui va donc bientôt se déployer, c'est la chaufferie urbaine. Donc, on en avait parlé lorsque je vous avais accueilli à la Maison du Projet. Effectivement, on va développer une chaufferie essentiellement alimentée par le bois et qui va chauffer l'ensemble des établissements publics du quartier, donc sur le campus universitaire, les écoles, collèges et lycées, les établissements publics, les gymnases, les salles de sport et un certain nombre d'immeubles, mais pas tous, du parc social. Donc pour réduire, on va dire, la consommation d'énergie des habitants directement dans les quartiers, je parlerai évidemment de la chaufferie qui va améliorer et diminuer la consommation d'énergie. On va améliorer qualitativement le type d'énergie et on va diminuer la consommation. Mais je parlerai également de la réhabilitation des logements, puisque la réhabilitation va permettre d'apporter tout ce qui aujourd'hui est une grande perte d'énergie dans les appartements, à savoir les changements des ouvertures, l'enveloppement des immeubles de telle façon qu'il y ait une moindre perte d'énergie. Et ça, c'est un élément important. Et puis, on en parle moins, mais il y a aussi des aménagements dans l'espace public qui peuvent considérablement diminuer la consommation d'énergie. Par exemple, l'éclairage public. Aujourd'hui, vous avez encore de l'éclairage public qui coûte cher, qui éclaire le ciel alors que ce n'est pas bien utile. On a surtout besoin d'éclairer nos pieds. Donc, on va aussi avoir sur un certain nombre d'actions de ce type des actions vraiment importantes de diminution de la consommation d'énergie avec le développement du LED dans les éclairages publics. Et puis également, alors ça existe un petit peu autour de Bois-Ramé, si certains d'entre vous habitent par là, des capteurs qui permettent en fait, d'avoir de l'éclairage public quand on passe, mais qui s'éteint aussi au bout d'un certain temps pour éviter une consommation sans intérêt d'énergie dans l'espace public.
La rénovation de Belle Bay doit se terminer en 2025. En attendant, les habitants peuvent se tourner vers des projets déjà sur pied, comme le magasin Natureo qui s'est implanté en novembre 2016 à Angers. Les 4e 5 sont allés sur place, le visiter et rencontrer son directeur Jonathan Lafont.
L'idée de Natureo, c'est de pouvoir faire l'intégralité de ces courses que vous faites habituellement dans les magasins traditionnels chez Natureo. C'est le but, c'est que vous preniez votre caddie et vous rentrez chez Natureo et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le quotidien. Alors j'ai une part de direct effectivement avec les producteurs. Ça va aller du maraîcher jusqu'au fabricant de pâtes, de farine. On a des projets des fois effectivement. En plus, juste sur la vente, on développe des concepts. En ce moment, je suis en train de développer un concept de silo vrac pour vendre de la farine en vrac. Quelque chose qui se fait difficilement. Et on travaille avec un producteur en local pour faire ce projet. Donc ça va de la vente traditionnelle jusqu'au projet, enfin à la gestion de projet avec des producteurs locaux. Aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas forcément les moyens de privilégier dans leurs achats le producteur local français, car il y a un coût plus important dans la production lorsqu'on est sur de l'origine France. Donc on essaye de toujours faire un mix entre de l'origine France pour les personnes qui peuvent se permettre effectivement et qui ont l'envie de mettre le prix sur ce produit-là, mais on permet également à tout le monde via d'autres produits alors qui restent proches, donc les pays frontaliers de la France, l'Italie ou l'Espagne, effectivement pour les fruits et légumes, qui vont avoir des coûts de production un peu inférieurs, mais tout en respectant le cahier des charges agriculture européen. Et là, du coup, on va permettre de trouver le mix produit entre l'origine France et en même temps l'économique avec des coûts de production qui sont un petit peu inférieurs, donc un prix de vente aussi inférieur. Le top vente, c'est les produits frais, c'est les fruits et légumes, parce que le client bio, consomme bio, transforme beaucoup ses produits. C'est-à-dire qu'il va pas acheter de plats cuisinés, préparés. C'est vraiment tous les produits frais qui sont vendus, principalement, parce qu'on cuisine plus. Quand on prend plus des produits bruts, qu'on transforme soi-même, ça fait partie un petit peu de l'esprit bio.
Vous l'aurez compris, on trouve de tout à Natureo. Mais penchons-nous maintenant plus particulièrement sur un secteur où les enjeux sont énormes pour notre planète et ses habitants, l'agriculture. En effet, la classe a eu le plaisir d'accueillir Nicolas Hasbrook, un maraîcher bio qui nous a parlé de son métier, mais aussi de la MAP, les voisins de panier. Mais au fait, Théo, c'est quoi une AMAP ?
AMAP signifie Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est un groupe de consommateurs qui passe un contrat avec un ou plusieurs producteurs locaux. Chaque consommateur devient partenaire et achète à l'avance une part de production. Par exemple, un panier de légumes, de fruits, de la viande. La distribution des produits est organisée chaque semaine. Il existe aujourd'hui environ 1000 AMAP en France et une centaine dans les pays de la Loire.
Écoutons Nicolas Hasbrook.
La MAP a été créée en 2008, au moment de mon installation en fait, puisque l'association s'est créée pour soutenir mon installation. Alors les avantages de la MAP, pour le consommateur, c'est d'avoir des légumes sains, variés tout au long de l'année et de soutenir un producteur local. Et pour le producteur, l'avantage, c'est d'avoir un préfinancement de la production, un engagement des consommateurs à venir chercher leur panier de légumes toutes les semaines. C'est une vraie sécurité. Il y a une vraie solidarité, un engagement des personnes par le contrat. Et comme c'est des gens qu'on voit toutes les semaines, certaines depuis 10 ans maintenant, eh bien, en fait, avec certaines personnes, on tisse des liens d'amitié et on sent les gens vraiment engagés sur leur manière de se nourrir, mais aussi sur la vie de la ferme et sur tout ce qui se passe autour. Il y a des données qui sont données à échelle mondiale disant que l'agriculture pourrait largement permettre de nourrir la planète, de nourrir tout le monde. Il suffirait d'adapter légèrement les volumes, notamment au niveau de la consommation de viande, pour pouvoir nourrir facilement tout le monde en agriculture biologique. Donc, est-ce que l'agriculture biologique représentent des désavantages pour l'agriculteur. Ça représente plus de travail. Souvent, on est un peu moins mécanisé, ce qui fait que le travail est peut-être un peu plus pénible physiquement. Mais en fait, on a une grande satisfaction aussi de produire un aliment sain, qui est de bonne qualité, aussi de préserver notre environnement. Et ça, c'est plutôt une grande satisfaction.
Merci encore à Nicolas Hasbrouck de nous avoir si bien parlé de son métier. Pour que les habitants de Belle Bay puissent bénéficier des bienfaits d'une AMAP, ils ont au moins deux solutions. En créer une ou se rendre à la Membrolle une fois par semaine pour aller chercher leur panier de légumes.
Ce qui veut dire prendre la voiture pour une bonne dizaine de minutes.
En effet, et aucun problème puisque les 4e 5 ont aussi enquêté sur des moyens de transport moins polluants. Zainaba, qui avez-vous rencontré à ce sujet ?
Eh bien, nous avons eu la joie d'accueillir au collège Emmanuel Charil, directeur général des services du CIML.
Que veut dire l'acronyme SIEML ?
Le CIML, c'est le syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire. Et dans son interview, Emmanuel Charil nous a expliqué les missions du CIML.
Écoutons alors Emmanuel Charil.
Alors le syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire, comme je l'expliquais en introduction, est un établissement public qui fédère toutes les communes et intercommunalités du département de Maine-et-Loire. Historiquement, c'est le syndicat qui a construit les réseaux électriques et donc il en est propriétaire, les réseaux électriques du département. Et au cours des décennies, il a su diversifier son activité avec les réseaux de gaz, l'éclairage public, les travaux d'économie d'énergie et puis aujourd'hui la production d'énergie renouvelable. Il accompagne de plus en plus ses adhérents, les communes et intercommunalités, dans les efforts qu'ils peuvent accomplir justement en vue de développer des politiques climat-énergie, donc à la fois pour économiser l'énergie au travers notamment de la consommation énergétique des bâtiments communaux et intercommunaux, et en même temps pour essayer de produire de plus en plus d'énergie renouvelable.
Il s'agit donc d'une structure très importante pour la question de l'énergie dans notre département. Et à partir de ce domaine, le CIML a aussi été amené à travailler sur la question du rechargement des batteries des voitures électriques. Nous écoutons à nouveau Emmanuel Charil.
Et puis, plus récemment, il s'est positionné dans le développement d'infrastructures de recharge de carburants alternatifs pour les véhicules qui auront vocation à ne plus rejeter en fait, des gaz à effet de serre et ne plus utiliser des énergies fossiles dans les années à venir. Véhicules électriques, véhicules au biogaz et puis, pourquoi pas demain, les véhicules à hydrogène. Eh bien, on nous dit souvent que nos concitoyens hésitent à acheter des véhicules électriques parce qu'ils ont peur de l'autonomie. Ils ont peur du manque d'autonomie, ils ont peur de rester en panne sèche, comme on dit, en panne sèche. Les infrastructures sont là pour les rassurer parce qu'ils savent désormais qu'ils peuvent compter sur une borne à proximité, à une vingtaine de kilomètres partout là où ils seront. Ils pourront toujours avoir une borne qui pourra les dépanner. Et l'expérience, les études montrent que dans les départements qui ont pris un peu d'avance par rapport à nous ou d'autres pays en Europe, lorsqu'il y a des infrastructures de recharge, les ventes de véhicules électriques décollent. Donc il y a bien un lien de cause à effet entre le développement des infrastructures et le développement de l'utilisation des véhicules électriques. On est là pour ça, pour rassurer nos concitoyens sur la pertinence de la mobilité électrique. La voiture électrique, la voiture du futur, moi je la vois, à la fois connectée, partagée et puis forcément avitaillée par un carburant alternatif. Alors connectée, vous avez tous entendu parler des développements de la voiture autonome, hein, la Google Car ou il y avait une voiture Uber, là aussi il y a des développements Uber, des taxis Uber sur les modèles de voitures autonomes. Donc ça je pense que ce sont des voies de progrès très importantes dans les années qui viennent. Ce seront des voitures partagées, vous avez tous entendu parler de l'autopartage et puis du covoiturage aussi, les plateformes BlaBlaCar où justement lorsque vous faites un déplacement, ben, vous cherchez à remplir le véhicule de façon justement à partager les frais de transport. Et puis surtout ce seront des voitures qui cesseront d'utiliser les carburants fossiles. Donc les carburants tels que vous les connaissez aujourd'hui, type essence, diesel. Tout ça, je pense, le président de la République, M. Macron, a annoncé qu'en 2040, il n'y aurait plus de véhicules à énergie fossile vendus sur le marché. Donc ça veut dire qu'il faudra trouver d'autres types d'énergie. Et ces énergies-là, ce seront principalement l'électricité que l'on pourra stocker dans des batteries, ou alors ça pourra être également des voitures électriques dont la source d'énergie est en fait une pile à combustible, une pile alimentée par de l'hydrogène, ou alors des véhicules thermiques avec une motorisation thermique, moteur à explosion tel que vous le connaissez, mais qui utilisent des carburants renouvelables type biogaz. Alors le biogaz c'est quoi ? C'est le gaz qui est issu de la méthanisation des déchets fermentescibles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des méthaniseurs. Par exemple, il y a beaucoup de méthaniseurs agricoles en ce moment qui sont en train d'être développés à la campagne à partir des déchets agricoles. Et de ça, on peut en faire un gaz qui ressemble énormément au gaz naturelles qu'on trouve dans les réseaux. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire fonctionner votre automobile.
Tout cela semble assez futuriste. Mais comme l'a souligné Emmanuel Charril au 4e 5, tout le monde ne sera pas équipé de voitures électriques demain, ne serait-ce que par rapport au coût d'achat assez élevé de ces véhicules.
À propos d'argent, nous avons aussi rencontré Jürgen Bartelheimer, le trésorier de la Muse. Il nous a beaucoup déconcertés lorsqu'il nous a parlé de la fameuse monnaie à usage solidaire et écologique.
Oui, vous le savez peut-être pas, mais il existe un enjeu depuis 2012, cette nouvelle monnaie, qu'on peut se procurer dans des bureaux de change, c'est-à-dire généralement des magasins qui acceptent la Muse. Le change est simple, puisque 1 euro est égal à une Muse. Il n'y a pas de centimes de Muse et la monnaie circule uniquement sous forme de billets. Très jolie d'ailleurs, avec leurs dessins de fondeurs d'ardoise, de gabarres ou encore de paysages viticoles.
L'objectif des créateurs de la Muse, c'est de faire en sorte que l'argent circule le plus possible entre les acteurs de l'économie locale, et donc éviter l'épargne. C'est pour ça que les billets de Muse doivent être réutilisés au cours de l'année sous peine de perdre un peu de leur valeur. Aujourd'hui, les commerces et services qui acceptent la Muse sont clairement engagés dans le développement durable et veulent faciliter la transition énergétique.
Bien sûr, parce qu'en achetant prioritairement à des producteurs ou à des petits commerçants locaux, on limite vraiment l'énergie utilisée pour le transport des marchandises.
Eh bien, merci au 4e 5 de nous avoir présenté des solutions très concrètes qui permettent aux habitants du Maine-et-Loire de favoriser la transition de notre société vers un développement durable.
Nous remercions également toutes les personnes interviewées pour cette émission, pour le temps qu'elles ont bien voulu consacrer à ce projet.
À bientôt pour une nouvelle émission de la Web Radio au Collège François Rabelais.